Normalement, vous avez lu 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les 12 premiers versets du chapitre. Alors, je vous rappelle qu'on est en train d'étudier un peu, voir un peu le thème de la sainteté. Avec ce verset clé dans le Lévitique où il dit « Vous serez saints car je suis saint ». Et c'est Dieu qui dit ça, et donc et c'est un commandement qu'il nous donne. Hein. On trouve cela dans Lévitique 4 fois, je crois, et puis une fois dans la première épître de Pierre, hein, Pierre 1, verset 16. Donc c'est un thème qui est très important, parce que bon, c'est un commandement direct aussi de l'Écriture. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la sainteté de l'Esprit, je ne sais pas si vous vous rappelez. On a vu l'importance de chercher, hein, de rechercher cette sainteté de l'Esprit. Et aujourd'hui, nous allons regarder un peu, nous attarder sur la sainteté du corps, hein, parce que la Bible en parle aussi, et les deux choses sont liées. Il y a même des versets qui mettent les deux en même temps. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 7, et au verset 1, nous pouvons lire « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, voilà, on peut dire ça, et de l'esprit. » C'est les deux ici, chair et esprit. « En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Alors ça, c'est, vous voyez, c'est un verset où il y est question du corps et de l'esprit, de la chair et de l'esprit, mais il y en a d'autres où il parle seulement du corps, comme on a lu dans, comme vous avez lu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, par exemple. Alors je commence avec une question. Puisqu'on parle de la sainteté du corps, quels sont les péchés du corps? Quels sont les péchés du corps? Si on dit soyez on veut être saint de corps. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on pourrait? Voilà, on s'attend à quoi? Quelles sont les choses qui, voilà, lesquelles il faut s'éloigner? Quels sont les péchés donc qu'on pourrait considérer comme péchés du corps? L'impudicité, oui. D'accord. Les excès. Acceptables, tu veux dire, par exemple, oui. C'est un péché, l'acceptable? D'accord. Manger beaucoup, c'est un péché? Oui. On a dit oui. Ma femme a dit oui, c'est que c'est oui. Hein. D'autres? Parler, oui. La langue qui bouge, voilà. Hein, c'est le corps, hein. Ça fait partie du corps. Même si, bon, hein, y a des choses qui commandent derrière, mais... D'autres? L'immoralité, donc impudicité, immoralité. Alors l'immoralité, c'est peut-être plus large, tu as raison, hein, c'est vrai. On peut être immoral et pas impudique, hein, je crois. L'impudicité, c'est vraiment la chair de manière un peu comme il dit ici, hein, débauche. Et puis on peut être immoral dans la gestion de quelque chose, hein, malhonnête, quoi. Hein. D'autres? Cupidité, oui. La cupidité, la violence, oui, peut être, oui, tout ça. Donc tout ça, c'est vrai. On peut être violent dans notre manière de faire avec les autres. Alors, je vous lis une citation que j'ai trouvée dans un livre d'un auteur qui a un livre sur la sainteté. Il dit que les chrétiens du XXe siècle, en particulier les occidentaux, sont généralement pris en défaut dans le domaine de la sainteté du corps. Dit la gourmandise ou la paresse. On n'a pas dit la paresse, nous, hein, je crois. On n'a pas dit ça. Sommeil, on n'a pas dit ça, non. Okay. La gourmandise et la paresse étaient considérées comme des péchés par les premiers chrétiens. Dit, de nos jours, on y voit un manque de volonté, mais certainement pas un péché. Et c'est vrai. Hein. Dit, bon, je manque de volonté pour faire les choses, hein. Mais on ne dit pas « je suis paresseux, c'est un péché, il faut que je corrige ça ». C'est plus difficile. Mais il y a une époque où, pour les chrétiens, c'était quelque chose, hein, la gourmandise, c'était quelque chose bien classé comme un péché. Alors, l'un des versets les plus directs concernant la sainteté du corps, c'est le verset que nous avons lu, que vous avez lu, peut-être dans les groupes, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On peut le regarder ensemble, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 3 jusqu'au verset 5, on peut lire. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc on voit ici, c'est un appel direct à la sainteté du corps, une exhortation, un commandement direct à la sainteté du corps. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche et que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Et aussi, il parle de l'honnêteté parce qu'il parle du rapport qu'on a avec les fraudes, avec les frères, de ne pas user de fraude dans les relations que l'on a. Alors, l'apôtre Paul exhorte. Son exhortation ne commence pas là. Il commence au verset 1 déjà, hein, où il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors, pas si vous avez remarqué l'exhortation, il dit, vous avez appris, quand il dit comme ça, de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et il dit, c'est là ce que vous faites. Puis après, il dit, marchez à cet égard, je vous conjure. C'est une exhortation solennelle, hein, forte. Il dit, je vous conjure de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous avez appris, c'est ce que vous faites, mais marchez dans ça de progrès en progrès. Donc, ça veut dire que dans la vie chrétienne, on n'est jamais arrivé à terme. Il faut toujours progresser. Et dans le domaine de la sainteté, il faut toujours progresser. Donc, il reconnaît leur bonne marche. Mais il les encourage à marcher de progrès en progrès, et particulièrement dans le domaine de la sainteté. Alors, à l'époque de Paul, il y avait certainement beaucoup de débauches, hein, qui dans l'environnement, hein, autour de ces chrétiens. Ils étaient issus de milieux païens aussi. Et vous rappelez ce que l'apôtre Paul écrit, par exemple, aux Corinthiens, hein, où quand il parle de il y avait même dans l'Église, hein, des cas d'inceste, vous rappelez de cela, et l'apôtre Paul traite ça au chapitre 5 de 1 Corinthiens, au chapitre 6, il parle du rapport avec les prostituées, donc il y avait un temple d'Aphrodite, donc c'était quelque chose qui était, voilà, c'était quand même relativement répandu. Même si à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, internet, réseaux sociaux, et toutes ces choses-là, hein, ce qui, de nos jours, amplifie encore le phénomène. Peut-être qu'il fallait se déplacer pour aller à ces endroits. De nos jours, on n'a pas besoin de se déplacer, hein. Les choses arrivent jusqu'à nous, jusque dans la plus grande intimité. Donc cette exhortation à la sainteté du corps, elle est extrêmement pertinente encore pour nous aujourd'hui, parce qu'on n'est pas meilleur que ces personnes étaient. Et en plus, on a des amplificateurs qui font que, eh bien voilà, on est dans une société qui est hyper sensualisée. Je pense que on peut pas dire le contraire. Hyper sexualisée aussi, je sais pas comment il faut dire ça. Et puis hyper connectée, hyper industrialisée. Donc on peut facilement communiquer sur beaucoup de choses, et donc on est vite exposé. On est surexposé. Et l'enfant de Dieu doit être extrêmement vigilant. Alors, on va considérer un peu ce que l'apôtre Paul dit dans ce verset. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. D'abord, la sanctification du croyant, c'est la volonté de Dieu. La sanctification du croyant, c'est la volonté de Dieu. Le corps du croyant intéresse Dieu. Il y a des endroits où on pense que le corps, c'est pas important, c'est du moment qu'on se concentre sur l'esprit, le corps, on fait ce qu'on veut avec. Non, Dieu est intéressé par le corps. Non seulement il a créé le corps, c'est lui qui l'a créé, mais il sauve le corps et il a une volonté à l'égard du corps. Il a un projet même pour le corps. Si vous regardez dans ce même livre, au chapitre 5 et au verset 23, par exemple, l'apôtre Paul dit, que le Dieu de paix vous Quel est le mot ici? Sanctifie, hein, dans notre thème, qui vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, alors il dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul prie et il dit que Dieu sanctifie votre corps, votre âme et votre esprit et qu'il les conserve purs. Donc il montre ici la volonté qu'a Dieu de purifier, de sauver, de racheter aussi le corps. Et l'Écriture donc nous dit clairement que Dieu œuvre, Dieu lui-même œuvre, c'est ce qu'on voit ici, à la sanctification du corps. Alors même si nous trouvons des exhortations qui nous demandent de nous sanctifier, de marcher de progrès en progrès dans la sanctification, eh bien nous lisons ici, nous voyons bien ici que Dieu sanctifie, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, que ce soit lui qu'il fasse. D'accord? Donc il est à l'œuvre dans la sanctification, il œuvre à la sainteté du croyant. Et donc le souci premier du croyant, c'est quoi? C'est de marcher dans la volonté de Dieu. D'accord? C'est cela qu'on devrait chercher à faire. Parfois on dit, je cherche la volonté de Dieu, j'aimerais connaître la volonté de Dieu, etc. pour ma vie. Eh bien là, c'est clairement exprimé. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est que nous marchions dans une sainteté de corps. Là, on peut pas louper cela. Et donc, si on veut marcher dans la volonté de Dieu, il faut nous soumettre à ce que la parole nous dit ici. Et puis, un peu plus loin dans le passage, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, il dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Vous voyez ici, donc, il nous sauve, il nous appelle, il nous donne une sainte vocation qui est la sanctification et pas l'impureté. Donc, ça doit être devant notre pensée, c'est Dieu le veut, Dieu œuvre à cela et il nous appelle en plus à cela. Donc, comment est-ce que nous devons rechercher cette sanctification? Alors, si on regarde ce que Paul dit ici, premièrement, on peut dire qu'il faut s'éloigner de l'impudicité. Alors, on parle ici de l'impudicité par tous les moyens. Il faut s'éloigner. Alors, on pourrait, parce que là, le verset parle d'impudicité, mais il parle aussi d'honnêteté. Donc, on peut englober plusieurs choses. Et il faut s'éloigner de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu par tous les moyens. Mais particulièrement, puisqu'on parle de la sanctification du corps, il faut s'éloigner de l'impudicité par tous les moyens. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, dit-il, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, il est question de s'abstenir de la débauche. L'impudicité, le mot impudicité ici, c'est le mot débauche. Le mot original, c'est pornéa. Donc, vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Pornographie. Hein. Ça vient de là. C'est la débauche. Hein. C'est ça que ça veut dire. Vous devez vous abstenir de cela. En fait, ça englobe dans la Bible toute relation sexuelle illicite. Hein, qui n'est pas selon la volonté de Dieu. D'accord? Comme Dieu l'a prévu. Dans le cadre du mariage. Entre un homme et une femme. Donc tout ce qui sort de ce cadre strict de la parole de Dieu, c'est de la débauche. C'est de la débauche pure et simple. Donc, et deuxièmement, il n'est pas question ici non plus de l'éviter autant que possible. Il ne dit pas éviter autant que possible l'impudicité. Il dit abstenez-vous. Ça veut dire vous vous en écartez, vous mettez en œuvre tous les moyens nécessaires pour vous en écarter. Il faut s'en écarter tant au niveau des pensées que de toute activité qui pourrait faciliter que l'on pêche et que l'on tombe dans l'impudicité. Alors, ça veut dire que il faut avoir une attitude à la fois défensive et offensive. Hein. Défensive parce que je ne fais pas ce qui pourrait m'entraîner à chuter. Je suis dans la défensive. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Parce que c'est des choses qui peuvent m'entraîner à chuter. Je ne vais pas regarder ce genre de film. Je ne vais pas passer par là. Je ne vais pas avoir ce genre de discussion. Je vais être dans le « non, 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 je ne vais pas faire ». Mais aussi, ça, il faut avoir une attitude offensive qui consiste à faire tout ce qui m'entraîne loin de là où je ne veux pas tomber. D'accord? Okay, c'est comme quelqu'un qui dit, il y a un précipice, il dit non, je ne vais pas passer là, mais il peut dire aussi, je vais passer le plus loin possible. D'accord, c'est exactement ça. Et c'est comme ça que ça se passe en général dans la vie chrétienne. Rappelez-vous de Zachée, par exemple, hein, quand il s'est converti dans Matthieu chapitre 19. Zachée, c'était qui? C'était un publicain et un... c'était un voleur, hein. Faut dire les choses clairement, avec un gros raccourci. C'était un voleur, un publicain, collecteur d'impôts, mais il volait les gens. Et quand il s'est converti, Jésus est rentré chez lui, et la Bible dit, en Luc 19, verset 8, il dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait de tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, Zachée qui est un voleur, il ne vole plus. Mais s'arrête pas que là, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il ne vole pas, il va maintenant donner. Donc, l'aspect négatif, ce que je veux dire, hein, l'aspect défensif, je ne vole plus, mais je vais plus loin que ça. Pour éviter de voler, je vais donner. Hein, je vais être dans une autre logique, dans une autre attitude. Et donc, le meilleur moyen de ne pas voler, c'est de donner. Et donc, pour revenir à notre question de la sainteté du corps, on pourrait prendre ce que l'Écriture dit en Hébreux 13, 4 concernant le mariage. Il dit, par exemple, Hébreux 13, verset 4 dit, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Donc, on comprend bien que ce verset parle de l'adultère. Okay? Et l'exhortation donc ne consiste pas simplement à dire que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça, c'est la partie défensive. Il faut que ça soit comme ça. Mais il dit, avant cela, il dit que le mariage soit honoré de tous. C'est encore plus fort. C'est-à-dire que si je ne veux pas que le lit conjugal soit souillé, il faut honorer le mariage. D'accord? Donc là, il y a quelque chose de positif, d'offensif dans le commandement. Et donc, ça veut dire quoi? Je vais tout faire pour honorer le mariage. Le mien et aussi celui de l'autre. D'accord? Et là, je peux me garantir que le lit conjugal ne sera pas souillé et qu'il n'y aura pas d'adultère. Voyez? Il faut... quand l'Écriture nous donne un commandement, il faut non seulement obéir au commandement qu'il nous donne, s'il nous demande de ne pas faire quelque chose, il faut ne pas le faire, mais il faut, ça implique aussi que l'on fasse tout ce qui peut m'aider à mettre en pratique le commandement. Okay? Donc ici, quand l'apôtre Paul dit « Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité », il dit « Il faut s'éloigner le plus loin possible ». Mais il faut faire et s'engager dans tout ce qui pourrait m'aider à m'éloigner de l'impudicité. Et là, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Au lieu de regarder ceci qui me fait perdre du temps, je peux dire, je vais lire un bon livre, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà positif. Je dis non, je regarde pas, mais je remplace. Hein, je prends un livre intéressant et je vais le lire. Je vais m'éduquer spirituellement et ça m'aidera à ne pas rester devant ce film dans lequel il n'y a rien, mais où une scène n'importe comment peut arriver à n'importe quel moment, et puis voilà, je suis devant et je ne sais plus quoi faire. Hein? Ok? C'est un exemple. Hein? On peut trouver d'autres exemples dans d'autres domaines. Donc ça, c'est une première chose. S'éloigner de l'impudicité par tous les moyens. Deuxièmement, il faut maintenir, dit-il, son corps dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de la débauche, mais que chacun sache posséder son corps. C'est-à-dire que tout le monde est concerné ici, individuellement. Chacun doit connaître son corps, doit se connaître, doit apprendre à connaître connaître un peu ses points faibles et faire tous ses efforts pour se maintenir dans la sainteté. Parfois, quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire à notre place. On pourra avoir de l'aide, parfois, on pourra demander de l'aide, mais on doit faire les efforts soi-même pour se maintenir. Et c'est le devoir de chacun, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. C'est une responsabilité ici individuelle qui est donnée. Ça veut dire ne pas laisser son corps ou ses appétits nous dominer, mais maîtriser notre corps. Savoir le posséder dans la sainteté, c'est ne pas le laisser dominer. Dieu a créé le corps et ses appétits. C'est lui qui les a créés, d'accord ? Et avec tous les appétits qu'il a, mais on ne doit pas le laisser sans contrôle. On entend parfois des gens qui disent il faut écouter son corps. Hein? Vous avez déjà entendu ça, il faut écouter son corps. Mais ton corps te dit, il faut l'écouter. Moi, quand j'écoute le mien, il me dit toujours la même chose. Je suis fatigué. Il me dit toujours ça. Alors si je l'écoute, je dis, ben je vais au lit. Il faut que tu te reposes. Si je suis fatigué, il faut trouver le médicament qui va avec. C'est quoi avec la fatigue? C'est le repos. Il faut rester là. Il faut rester à la maison. Il ne faut pas sortir aujourd'hui parce que bon, tu es fatigué après tout. Okay. On n'écoute pas son corps. On comprend ce qu'on dit quand on dit qu'il faut écouter son corps. Mais parfois, littéralement, on le fait. Hein. On écoute son corps. Il a des appétits. Et on cherche automatiquement à répondre à ses appétits, hein, n'est-ce pas? Le sucre, par exemple. Hein, il y a des gens qui me disent, hein, on aime le sucré. Hein. Alors ma fille dit, oui, oh là là, papa, les gâteaux, ne touche pas à ça. Hein. Et c'est vrai, parfois on a l'impression que son corps a besoin d'un petit gâteau. C'est pas vrai, on peut ne pas l'écouter et puis manger autre chose à la place ou ne pas manger du tout. Et donc on peut laisser son corps sans contrôle. Et Paul dit ici que le Saint-Esprit dit à travers l'apôtre Paul que le croyant doit apprendre à maîtriser son corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je le tiens esclave, je le tiens en bride. Hein. Et le chrétien doit apprendre cela, tenir son corps en bride, s'il veut demeurer dans la sainteté. Chacun doit posséder son corps dans la sainteté, le connaître, savoir comment le maîtriser. Et l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Parfois, il faudra l'affamer, il faudra pas le soigner trop dans ce qu'il nous demande. Parfois, il demandera plus de sommeil qu'il en a besoin, il demandera rester au lit plus qu'il en faut. Il faudra lui dire non. Il faut pas en avoir soin, parce que si on en a soin, on va satisfaire les convoitises. C'est ce que dit Romains chapitre 13, verset 14. Donc, ne pas chercher à nourrir la chair. Et qu'est-ce qui nourrit la chair, parfois? Bon, plein de choses, hein, peuvent nourrir la chair, les mauvaises discussions, les blagues douteuses, les regards où il faut pas, le confort, la paresse, le dormir, la bonne bouffe. Toutes ces choses-là peuvent être des choses qui nourrissent la chair. Et l'Écriture exhorte à plusieurs endroits, on peut pas les voir tous, mais à plusieurs endroits, le chrétien à faire mourir ce qui dans son corps peut le tenir assujetti, peut le faire chuter. Alors Colossiens 3, versets 5 et 7, par exemple, dit, je vous lis, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Et il dit, « L'impudicité, donc c'est ce qu'on est en train de voir dans 1 Thessaloniciens 4, l'impureté, les mauvaises passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces pensées. » Donc il dit, il faut les faire mourir, quoi. Il faut les maintenir, les éteindre. Ça veut pas dire qu'il faut pas manger. Ça veut pas dire qu'il faut pas gagner sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir de désirs, hein. Il parle des mauvais désirs ici. Mais ça veut dire qu'il faut éliminer tous ceux qui tentent de dominer dans le corps ici. On prête à Susan Wesley ces paroles. Elle dit, tous ceux qui accroient la force et l'autorité de votre corps sur votre esprit est un péché pour vous. Tous ceux qui accroient la force et l'autorité de votre corps sur votre esprit est un péché pour vous. Si c'est mon corps qui me commande et que je n'arrive pas à le maîtriser, à ne pas faire cela, c'est qu'il a pris la domination, et c'est que cette chose est certainement un péché. Quel que soit le domaine, corps, dans lequel on utilise le corps. Donc ici, il ne faut pas, comme on a dit tout à l'heure, il faut pas laisser le corps nous dominer, mais il faut, au contraire, comme l'apôtre Paul dit, le traiter durement, si on veut le maintenir dans la sainteté. Et puis, il faut, dit-il aussi, si on revient au verset 4 de 1 Thessaloniciens 4, dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, il ne faut pas imiter les païens. Il ne faut pas faire comme. C'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière où Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'un des grands problèmes que l'on a avec le corps, souvent, c'est qu'on a tendance à imiter beaucoup ce qui se passe autour de nous, se conformer à ce qui se passe autour de nous. On n'aime pas être différent. On n'aime pas parler différemment que les autres. On n'aime pas s'habiller différemment que les autres. On n'aime pas faire sa beauté différemment que les autres. On regarde, on se ressemble. Hein? Il y a les gens disent, ouais, je suis quelqu'un d'original, etc. Mais quand on regarde les gens, ils sont tous, moi j'ai des jeunes, ils sont tous habillés pareil. Et si on s'habille différemment, on n'a pas les mêmes marques, on n'a pas les mêmes vêtements, on se sent en marge, n'est-ce pas? Il arrive que le chrétien aussi, pareil, malheureusement, il a du mal à être parfois différent. Ce que l'on désire et ce que l'on recherche dans le monde, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du confort, du matérialisme et de toutes ces choses, on a tendance à se conformer un peu à cela. Et il faut réfléchir, hein, vraiment. C'est quelque chose qui peut-être nous échappe, mais qui est relativement fort. Le jeune sera tenté d'avoir un petit copain, une petite copine comme tous les autres, parce que c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Et on copie, on fait ce qu'il y a dans le monde. On trouve même que ça n'est pas trop mal. On va écouter à peu près ce que le monde écoute. Mais Paul dit ici, ne vous livrez pas à une convoitise passionnée comme font les païens. Les païens, leur particularité, c'est qu'ils se livrent à une convoitise passionnée et cela se voit dans leur corps, dans la manière de le gérer, dans la manière de le vêtir, dans la manière de l'utiliser. Ça se voit qu'ils sont conduits par une convoitise passionnée. Jésus disait la même chose concernant l'imitation. Il dit, à plusieurs endroits, mais je vous cite juste un endroit, quand il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Il aurait pu dire, ne multipliez pas de vaines paroles. Il dit, mais ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et il donne la pensée des païens. Paul fait la même chose. Il dit, ne vous livrez pas à une convoitise effrénée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu font comme ça. Vous ne copiez pas ça. Vous connaissez Dieu, vous conduisez autrement. Et donc, il ne faut pas chercher ce qu'il donne. Si on veut maintenir son corps dans la sainteté, il ne faut pas chercher à imiter ceux qui agissent avec leur corps et ne connaissent pas Dieu. Ou ça se voit qu'ils font ceci ou cela parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ni sa sainteté, ni ce que Dieu demande, ni comment Dieu considère le corps ou toutes ces choses. Les païens ne connaissent pas Dieu, et l'apôtre Paul disait en Éphésiens, ils marchent selon la convoitise, la vanité de leur pensée. Voilà. Et leur conduite, c'est selon la vanité de leur pensée. Et le chrétien doit rechercher la sainteté, non en imitant les païens, mais en recherchant, d'accord, ce que le Seigneur lui commande ici. Paul dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu donc se livrent à une convoitise passionnée et que les croyants doivent désobéir à ce genre de convoitise passionnée. Romains 6, 12, je vous lis, il dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises ». Le chrétien a un devoir de désobéissance à l'égard de la convoitise. Si on veut que le péché ne règne pas dans le corps, que le péché ne règne donc point dans votre corps, donc si on veut que le corps soit saint, il faut absolument désobéir à toutes les convoitises, dire non à toutes les convoitises. Alors, naturellement, on peut pas faire ça, hein, d'accord? Mais si on est un enfant de Dieu, on a quoi? On a l'Esprit de Dieu en nous, qui nous aide, d'accord? Qui est l'Esprit de sanctification. N'oubliez pas que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit la même chose, que Dieu vous a appelé au salut par la sanctification de l'Esprit. Donc, et qu'il œuvre à notre sanctification. Qu'il nous appelle à la sanctification. Qu'il nous dit que sa volonté, c'est notre sanctification. Par conséquent, il nous donne les moyens de mener une vie de sanctifier et de marcher de progrès en progrès dans la sanctification du corps. Donc, désobéir à la convoitise, hein, Romains 6, verset 12. Alors que les païens se livrent, n'est-ce pas, à une convoitise passionnée, le croyant, lui, il doit, nous dit l'Écriture, fuir l'impudicité. Il doit aller le plus loin possible de l'impudicité. Romains 6, 18, fuyez l'impudicité. Il dit, quelques péchés, écoutez ça, quelques péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il pèche contre son propre corps. Donc celui qui vit dans la débauche, il pèche contre son propre corps. Mais ce principe-là peut être élargi, hein. Ce n'est pas seulement l'impudicité, hein, la débauche qui est concernée par ce verset, on peut le voir à d'autres endroits, hein. En Colossiens 3, 5 que nous avons lu, on a parlé de mauvais désirs, de cupidité, de toutes ces choses, donc de matérialisme. Donc on peut inclure le matérialisme, la recherche du confort, le fait de se sentir obligé de voyager, toutes les choses que, voilà, que l'on voit dans le monde et que l'on cherche forcément à faire ici. Eh bien, il dit, on ne doit pas se livrer à une convoitise de ces choses-là, on doit au contraire fuir ces choses. On doit chercher, c'est pas dit qu'on ne peut pas voyager, c'est pas dit qu'on ne peut pas avoir un peu de confort, mais le rechercher comme c'est recherché dans le monde pour notre propre vie, pour notre corps, non, on doit fuir toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le corps, en fait, a une influence sur l'esprit. Le corps a une influence sur l'esprit. Si la sainteté n'est pas recherchée dans le corps, elle ne sera pas non plus dans l'esprit. Et c'est probablement pour cela que l'apôtre Paul dit en Romains 12, il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir votre esprit comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est ce qu'il dit? Non, j'ai fait une faute là. Hein, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et après, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit, de l'Esprit. Renouvellement de l'intelligence ou de l'Esprit. On peut mettre les deux. Donc, à la fois, le corps est offert en sacrifice, voyez, et l'Esprit doit être renouvelé. Si le corps n'est pas offert, l'Esprit ne sera pas non plus renouvelé. Parce que ce qu'on fait dans le corps atteint aussi l'esprit. Et je vous cite un auteur de la fin du XVIIe siècle, qui s'appelait Thomas Boston, il dit ceci, il dit, ceux qui veulent se garder purs spirituellement doivent maintenir leur corps dans la soumission, ce qui exigera dans certains cas une sainte violence. Et ceux qui veulent se maintenir purs doivent, ceux qui veulent, pardon, se garder purs doivent maintenir leur corps dans la soumission, ce qui exigera, dans certains cas, une sainte violence. Parce qu'en fait, il est difficile de croître spirituellement s'il n'y a pas de discipline du corps. Ce n'est pas possible. Et je vous lis encore une autre citation. Il dit, quelqu'un d'autre qui dit ceci, il dit, dans une marche disciplinée vers la sainteté, hein, dans une marche disciplinée vers la sainteté, il n'y a pas de place pour la paresse et pour la faiblesse envers son corps. Si on veut marcher de manière disciplinée dans la sainteté, il n'y a pas de place pour la paresse et pour la faiblesse avec son corps. Il faut apprendre à lui dire non au lieu de lui céder sans arrêt. Il dit, nous tendons à agir selon nos sentiments. Malheureusement, nous avons rarement envie de faire ce qui convient. Nous n'avons pas envie de sortir du lit pour tenir notre culte personnel avec Dieu. pour étudier la Bible ou pour prier. C'est pas des choses qu'on a envie de faire si on reste naturellement, d'accord? Il faut parfois mettre le réveil une fois, deux fois pour pouvoir sortir du lit et faire les choses, pour pouvoir maîtriser ce corps qui a encore envie de rester. Il a toujours envie de 5 minutes de plus, hein? 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, et puis finalement ça fait 1 heure de plus, 1 heure et demie de plus, et puis après on se lève, il est 11 heures. Il est midi, 9 heures, je sais pas à quelle heure, ok, c'est pour vous. Mais tout ça pour dire, parce qu'on a du mal à discipliner notre corps. Le coucher tôt le soir, c'est une discipline qu'il faut avoir aussi. On a du mal à avoir cette discipline. On trouve toujours quelque chose à faire au moment où on doit aller se coucher. Soit les informations à regarder, je dis ça parce que, bon, je sais, hein. Soit les informations à regarder, soit autre chose à faire, etc. Et parfois, c'est pas quelque chose de mauvais que l'on fait. On va faire un vrai travail, quelque chose qui doit être fait, qui devrait être fait. Mais c'est pas le moment de le faire, c'est le moment d'aller se coucher pour pouvoir se lever convenablement le matin. Il nous manque cette discipline du coucher, il nous manque la discipline du réveil. Et quand il n'y a pas la discipline, cela affecte forcément l'esprit. D'accord? Et quelqu'un faisait remarquer que lorsque l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres », il disait que le résultat dont il a peur, c'était pas un résultat pour son corps, c'est un résultat pour son esprit. Il sera désapprouvé dans tout ce qu'il a dit. Spirituellement, il sera pas bien parce qu'il n'aura pas maîtrisé son corps. Donc, on voit ici que la maîtrise du corps a quelque chose à voir avec le progrès spirituel. Et je voudrais terminer avec deux passages bibliques. Donc, on ne pourra pas faire de progrès vraiment spirituel si on ne maîtrise pas notre corps et si on ne le tient pas dans la sainteté. Si on ne recherche pas la sainteté du corps, on n'aura pas la sainteté non plus de l'esprit. D'accord? Donc, pas de progrès avec la discipline corporelle, il n'y aura pas de progrès non plus spirituel. Deux passages bibliques. 1 Corinthiens 10, verset 31. Paul dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est un verset de la Bible, quoi. Le manger et le boire. L'apôtre Paul parle du manger et de boire ici, hein. C'est quoi manger et boire? On fait ça, on réfléchit presque pas. Et il dit, quand vous mangez, quand vous buvez, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Quand vous faites quoi que ce soit d'autre. Et manger, boire, c'est avec le corps. Quoi que ce soit d'autre, c'est aussi avec le corps. Donc la nourriture, la boisson, les choses que l'on fait dans le corps, le sommeil, le sport, les vêtements, le confort matériel, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Ça demande que l'on réfléchisse à ce que l'on fait. Comment on mange, comme disait tout à l'heure... je deviens vieux, hein. Charlie, il disait, voilà, les excès de table. Hein, c'est pas juste... Non, il faut réfléchir à ces choses-là, etc. Et un deuxième verset que je voudrais souligner, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, je vous lis. Il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont... que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Alors, votre corps, hein, notre corps physique, dit-il, hein. C'est pas quelque chose d'immatériel qu'on imagine, notre corps physique est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et sans aucun doute, l'apôtre Paul écrit ça aux Corinthiens, sans aucun doute, le principal problème des Corinthiens, c'était qu'ils avaient mis en oubli le sacrifice de Christ. Et Paul attire leur attention en leur disant, souvenez-vous à quel prix vous avez été racheté. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, dit-il. Et donc, il est fondamental pour nous de nous souvenir de ce que Christ a fait si nous voulons vraiment considérer la sainteté du corps ici. De ce qui doit être pesé dans la vie du croyant ne doit l'être en dehors de cette réalité-là, de ce que Christ a fait. Et il y a quatre choses ici que l'on doit se souvenir, dont on doit se souvenir si on veut vraiment vivre et rechercher cette sainteté du corps. Se souvenir, premièrement, du prix qui a été payé. Vous avez été racheté à un grand prix. C'est exactement ce que Pierre fait quand il dit, vous savez que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, mais c'est par le précieux sang de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache prédestiné avant la fondation du monde. Donc il exprime, attention, rappelez-vous à quel prix vous avez été racheté. Et donc vivez en conséquence. La première vérité. Deuxième chose, nous devons nous souvenir de notre hôte. Qui c'est qui habite en nous? Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, dit-il. Hein? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième vérité, nous souvenir de qui est notre propriétaire. Qui est le propriétaire de notre corps. Il dit que le corps que vous ne vous appartenez point à vous-même et que votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. C'est ce qu'il dit à la fin. Donc, vous ne vous appartenez point à vous-même. Par conséquent, vous n'avez aucun droit de faire avec votre corps ce que vous voulez. Tous les domaines. C'est pas une question de, c'est la mode. C'est une question que ce corps que je suis en train de transformer, il ne m'appartient pas. Point final. Je suis un enfant de Dieu, il ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Je ne peux pas faire avec ce que je veux. Et c'est parce qu'on ne considère pas cette vérité qu'on se permet de faire ce qu'on veut avec notre corps. Et que bien souvent, on sombre dans l'impureté, ou dans l'immoralité, ou dans d'autres choses, au lieu d'être dans la sainteté que Dieu veut. Et puis, quatrième vérité, c'est notre vocation pour ce corps. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit. D'accord? Donc, on se souvient du prix payé, on se souvient de l'hôte, d'accord? Notre hôte, on se souvient de qui est le propriétaire, et on se souvient de la vocation qui nous est adressée. La vocation qui nous est adressée, c'est de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Et c'est ça l'appel, quand Paul dit, vous n'avez pas été appelé à l'impudicité, mais vous avez été appelé à la sanctification. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et l'Épître aux Hébreux dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et quand il dit la sanctification, y compris aussi la sanctification de notre corps, parce qu'on vient de le voir, la sanctification du corps affecte ce qui se passe dans l'esprit aussi, et dans notre vie spirituelle tout entière. Que le Seigneur nous aide par son esprit. Prions. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité, et nous te demandons que tu nous aides à vivre ces choses. Nous te demandons pardon parce que tant de fois nous avons fait avec notre corps ce qui nous plaît dans beaucoup de domaines, et nous voulons apprendre à agir à son égard comme ta parole nous le commande. Nous te prions que tu nous rendes sensibles à ton esprit, pas désireux d'oublier à l'ambiance du monde qui est autour de nous, mais soucieux d'être obéissant à ta parole. Et Seigneur, même si on doit être différent des autres pour cela, que nous soyons motivés vraiment par l'obéissance à ta parole. Que nous recherchions la sanctification sans laquelle nul ne peut te voir. Mais nous te remercions parce que tu nous donnes ton esprit qui agit en nous, qui est l'esprit de sanctification et qui œuvre en nous. Nous te remercions, nous te louons parce que c'est toi même qui nous sanctifie, esprit, âme et corps. Et nous te prions de nous aider à ne pas marcher dans la direction opposée de ce que tu accomplis en nous. Pour la gloire de ton nom, nous te prions ces choses. Amen.